Radio X.
En direct
de la taverne sur Grande Allée. Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnochon.
En vacances.
Je vais même parler de quasi-délai.
Radio X.
En direct de la taverne de Grande Allée, c'est le retour de Radio X en vacances avec Jordan Boivin qui est avec vous autres jusqu'à 18h. Mel Trudel également, a.k.a. là, la sexploratrice, parce que je pense que trois quarts des auditeurs qui nous arrêtent, hey, c'est la sexploratrice, ça, Colin, parle-nous de sexe. Ben oui,
pas moyen de décoller de ça.
Mais non, c'est comme mon good job, c'est ça. C'est maintenant une partie de toi, la sexploratrice. Et on a également Louis Gauvin qui est avec nous autres, qui est à l'opération 1134 Grande Allée Ouest, que vous pourrez contacter à compter 18h ce soir pour le Carbo Show. Donc Carbo qui est parti en vacances et c'est Louis qui s'occupe de ça à soir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas jasé. Toujours le fun de l'avoir avec nous autres dans le retour. Vous l'écoutez à la télé, aussi sur le web, même en podcast pour RPM. Il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent. On peut maintenant l'appeler vedette de la télé. Sam Lessard qui est avec nous autres dans le retour. Salut Sam!
Salut les amis, ça va?
Ça va bien toi?
Ouais, pleine forme.
Réussis-tu à dormir un peu avec la nouvelle vie familiale?
C'est une très bonne question. Je dirais qu'on s'habitue tranquillement. Le sommeil, c'est pas encore un acquis. La petite, 7 mois aujourd'hui, là, fait qu'on on apprend encore à naviguer à travers tout ça, mais ça s'en vient. Je dirais que le bonheur d'être papa compense quand même pour les petits désagréments du manque de sommeil et autres affaires du genre.
Ben oui, c'est ça. Habituellement, dans ces eaux-là, là, les 6-7 mois, ben le sommeil commence un peu à embarquer, fait que ça place, c'est une bonne nouvelle. Ouais, exactement. Est-ce que vous êtes en tournage présentement, Sam, pour RPM?
Oui, on est en... ben pas cette semaine précisément, mais on a déjà commencé nos tournages en vue de la saison qui s'en vient, là, nos tournages sur, dans la région de Charlevoix, là, sur la piste. Là. Je sais que l'année passée, les gens étaient bien déçus qu'on abandonne la piste. On avait changé notre formule d'essai. On était passé à 2 véhicules dans la même émission, donc en formule comparative. 2 véhicules dans la même catégorie pour dire, par exemple, entre un Honda CR-V et un Subaru Forester, lequel est le meilleur entre les deux. On avait condensé beaucoup notre horaire de tournage, ce qui faisait que la piste était beaucoup plus difficile d'y aller. Mais cette année, on a revu les choses. On a fait un peu de ménage à travers tout ça. Puis on retourne sur la piste parce qu'on sait que les gens aiment beaucoup, beaucoup voir les véhicules faire le 0-100, le freinage, mais aussi l'évitement d'obstacles. Ça, ça a fait quand même la renommée de RPM à travers les années. Fait que on est retourné sur la piste. Fait que déjà 2 blocs de tournée. Puis il nous en reste 4 autres à tourner. Là, on a vraiment de l'ouvrage par-dessus la tête. Mais ça va bien, on est content.
Oui, ça, c'est du côté de Charlevoix. Puis est-ce que Voyage Auto est en effectu cette année pour aller essayer ou du moins aller voir des salons? Je sais qu'il y en a en Asie. Tu sais, est-ce que vous allez faire des tournées?
Oui, moi, je suis pas allé bien avec la vie familiale. J'ai décidé de rester un peu plus à la maison. Mais le dernier voyage que j'ai fait, c'est au Japon. Je suis allé en avril dernier avec Nissan. Ils nous ont fait découvrir un véhicule qui est ultra crucial pour eux, le nouveau Nissan Rogue. C'est pas compliqué, c'est le véhicule le plus vendu de Nissan à l'échelle nord-américaine, aux États-Unis comme au Canada. Il arrive avec une nouvelle génération hybride. C'est un nouveau système qui s'appelle e-Power. Ça fonctionne comme un véhicule électrique, mais tu le branches jamais. Dans le fond, il y a un moteur à essence qui agit comme une génératrice. Fait que c'est les gens vont nous dire, ben ça ressemble à une Chevrolet Volt. Pas vraiment, parce qu'une Chevrolet Volt, tu avais une grosse batterie, tu pouvais la brancher. Le Rogue, tu peux pas le brancher. C'est-à-dire que quand tu veux avancer, à un moment donné, le moteur à essence démarre, puis c'est lui qui fournit de l'énergie aux moteurs électriques qui font avancer le véhicule. Puis moi, je l'ai conduit pas ben longtemps, là, je dirais sur peut-être 10 kilomètres. C'était vraiment un essai préliminaire d'un modèle camouflé. J'ai trouvé ça vraiment convaincant. J'ai vraiment aimé la réaction de la mécanique. Ça se conduit comme une auto électrique. Ça, c'est vraiment, vraiment un point positif. Souvent, les hybrides, là, t'embarques là-dedans, puis il y a une espèce de... T'arrives pour accélérer, puis c'est long avant qu'il y ait une réaction.
C'est boiteux un peu,
ouais, c'est ça. La transmission donne des coups. C'est vraiment pas le fun. Parce qu'on dirait que c'est dur pour les constructeurs de marier ensemble le moteur à essence, le moteur électrique, pour que tout ça travaille ensemble pour faire avancer le véhicule. Mais dans ce Rogue-là, ben c'est juste les moteurs électriques qui sont connectés aux roues. Fait que ça se conduit vraiment comme un char électrique. Puis le moteur à essence, lui, il est juste comme une génératrice. Il touche jamais aux roues. Fait que ça donne une douceur et une fluidité qui est bien le fun.
J'imagine, Sam, que c'est un peu le meilleur des mondes, puis que ce type de véhicule-là, on va peut-être entendre ce type de technologie-là, du moins, grossir dans les prochaines années. Ouais. Parce qu'il y a des absolument. Gens qui ont changé vers l'électrique, qui sont tombés même dans le 100% électrique, et qui ont reculé le char, c'est-à-dire on décide de retourner à essence après ouais. parce que se brancher, ben là tu t'attends des fois des demi-heures pour même des heures pour aller au Madrid et tout ça. Ça peut être des problèmes. Fait que je pense qu'avec ça en plus, tu n'as pas besoin de toucher à la batterie, rien. C'est encore mieux. Fait que non, c'est vraiment pas pire. Puis si vous avez des questions pour Sam, assurément qu'on va en lire une couple dans les prochaines minutes, mais on va les prendre par texto idéalement au 88-670-9098. Commencez à nous texter, puis dans le deuxième bloc avec Sam, on va juste prendre vos questions. Je veux t'entendre, Sam, sur ce qui fait jaser dans l'actualité présentement.
Oui.
Les fameux véhicules chinois. Et là, on commence à en entendre parler un peu plus. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent. Les premiers véhicules fabriqués en Chine sont arrivés au Canada au mois de mai. Évidemment, c'est en lien avec le deal avec Xi Jinping et Mark Carney du mois de janvier, l'entrée de milliers de ces véhicules-là, un tarif douanier préférentiel. Là, c'est plus de 3000 véhicules là, qui sont maintenant au pays. C'est peut-être même plus que ça. Et le plus récent...
Autour de 6 ou 7 000, je pense, depuis janvier, oui.
Parce que mai, c'était 2900 qui étaient rentrés. Puis là, le plus récent, c'est le géant chinois Dongfeng. Je pense que c'est comme ça qu'il se prononce, qui est arrivé au Québec avec des voitures électriques à peu près 35 000 $. Là, on a bien des questions pour toi. Premièrement, pour quelqu'un qui voudrait s'acheter un véhicule chinois, est-ce que c'est un peu comme un Tesla, c'est-à-dire tu commandes à la limite ta voiture en ligne?
Bien, il faut, oui. D'abord et avant tout, il faut remettre les choses en perspective. Tu sais, quand on dit que Dongfeng est arrivé pour nous montrer les véhicules. Il n'y a pas de concession d'établi encore. Il n'y a pas de réseau de distribution. Tu sais, il faut commencer par le commencement. C'est un peu comme quand BYD nous disait il y a quelques mois, bien, nous, on arrive d'ici la fin de 2026, c'est-à-dire 20 concessions à travers le Canada. Écoutez, là, on est rendu le 15 juillet, puis on n'a pas vu une encore. Il va falloir que ça déménage pas mal d'ici la fin de 2026 pour qu'il y ait 20 concessions établies avec des véhicules qui vont se vendre. Parce que de vendre un char, c'est une affaire, mais il faut être capable de le fournir, il faut être capable de le réparer, il faut être capable de fournir des pièces en cas de réparation, etc.
Exact, c'est ce que Carbo nous disait souvent aussi. Hein? Un char chinois comme ça, t'es quasiment mieux d'en acheter deux pour être sûr d'avoir des pièces.
Ta pièce, ça se peut que t'attendes un an et demi avant de l'avoir.
C'est ça.
Bien, puis je veux dire, on l'a vécu un peu, cette situation-là, il y a quelques années avec l'arrivée de VinFast, qui est un constructeur vietnamien qui s'est établi au Québec, en Colombie-Britannique, à quelques endroits. Puis rapidement, c'est un constructeur qui a séduit les gens parce que la formule est bien fun. Un VUS électrique, 4 roues motrices, pas trop cher. T'sais, bon, et assez beau aussi, plusieurs couleurs disponibles. Bref, les gens ont été séduits. Il y en a beaucoup qui ont acheté ce véhicule-là, qui ont rapidement déchanté, un, par la fiabilité qui est absolument pas éprouvée. Qu'est-ce qu'on connaît de cette marque-là? De la même manière, qu'est-ce qu'on connaît de ces marques chinoises-là en termes de fiabilité, de durabilité sur avec notre climat, notre marché, etc.? Deuxièmement, quand il arrivait des accidents, par exemple, pas besoin d'avoir des gros accidents, là. On accroche la roue, on accroche l'arrière du véhicule. D'avoir des pièces, ça prenait des mois. Et ça, c'est quand le véhicule était classé réparable, parce que dans la plupart des cas, le véhicule était déclaré perte totale à cause de l'indisponibilité des méthodes de réparation pour ces véhicules-là.
Je suis en train de me dire, Sam, qu'aussitôt qu'un char, à peine il y a un accrochage, on l'envoie à scrap, puis on parle des fois de centaines de véhicules de même. Fait qu'à un moment donné, ça devient un beau problème si la personne paye ça. Puis après ça, ben, ces assurances qui vont grimper dans le tapis, et déjà que ça a nettement augmenté les dernières années. Là.
Oui, il y a vraiment une roue qui tourne de ce côté-là. Je dis pas que ce sont tous les véhicules électriques qui sont dans le même bateau, mais il y a quand même certains véhicules qui sont peut-être plus complexes, qui sont plus difficiles à réparer. Puis souvent, la réaction des assureurs, c'est de les envoyer au recyclage. Puis là, évidemment, ça coûte plus cher, puis ça fait monter, évidemment, la prime d'assurance. Puis tu sais, quand on dit, si je reviens un peu plus tôt, on parlait du nombre de véhicules qui ont été importés, véhicules chinois qui ont été importés au Canada depuis janvier, bien, les véhicules qui ont été importés, ce sont des véhicules de marque Tesla. Parce qu'ils s'en vendaient déjà des Tesla modèle 3 et des Tesla modèle Y assemblés en Chine il y a quelques années. Ma sœur possède un modèle Y qui était assemblé à l'usine de Shanghai. C'est un 2023. Il était assemblé là-bas. Il était importé ici. Puis tout ça a arrêté en 2024, je pense, quand le gouvernement de Justin Trudeau, à l'époque, a mis des tarifs de 100% sur l'importation des véhicules électriques chinois. C'est au mois d'août, je pense, que c'est arrivé en 2024.
Ouais, c'est dans l'été, ouais.
Fait que c'était facile à ce moment-là, depuis janvier, pour Tesla de repartir la machine, de recommencer à importer des véhicules ici, parce que eux, en bon français, la trail est déjà faite. Les concessionnaires sont établis, le réseau de distribution est là, les réseaux de réparation sont là aussi. Il faut juste fournir les véhicules. C'est vraiment pas la même situation pour des constructeurs plus émergents comme BYD, comme Dongfeng, comme Leap Motor, par exemple, d'autres marques qui sont établies en Chine puis qui ont un œil sur le marché canadien.
Mais penses-tu que c'est viable? Penses-tu que c'est possible pour eux de s'établir? Parce que tu parlais un peu de climat tantôt. Évidemment, ouais. Nos températures sont à l'extrême pour ces batteries-là. Puis on entend souvent que le pourcentage de la batterie, la durabilité, tout ça, ça peut quand même être difficile pour eux autres. Parce qu'il y a non seulement d'arriver, mais après ça, après un an, deux ans, OK, on a X, Y problème. Puis là, ben c'est beaucoup d'ajustements qui font en sorte que des entreprises pourraient juste abandonner le Canada. Là.
Oui, absolument. Puis, mais tu sais, il faut garder une chose en tête. La Chine, c'est quand même un géant industriel. C'est un pays qui contient beaucoup d'ingénieurs, de gens extrêmement compétents, qui n'ont pas peur de travailler fort, de trimer dur pour développer des produits puis constamment améliorer. Si on regarde l'industrie automobile chinoise comme elle était il y a 20 ans et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, je veux dire, c'est l'équivalent de ce qui a pris 80 ans l'industrie nord-américaine à avancer. Fait que, tu sais, peut-être qu'au début, les véhicules ne seront pas tellement convaincants, mais moi, je demeure fermement convaincu que ces véhicules-là, quand ils vont arriver chez nous, peut-être seront pas vraiment très convaincants au début, ou en tout cas, peut-être pas la grande majorité, mais à terme, c'est des véhicules qui vont être parfaitement convaincants. Puis ça va finir par botter le derrière, en bon français, aux constructeurs établis qui ont les deux pieds sur la bavette du poil depuis déjà trop longtemps, puis qui doivent améliorer leur méthode de conception, leur méthode de fabrication pour vendre des chars compétents puis moins chers en plus. Fait que c'est ça que ça risque de nous amener, les constructeurs chinois, si c'est fait adéquatement, là.
Ah oui, absolument. Puis dans les autres grosses nouvelles de l'automobile, ben il faut se parler de Volkswagen. Parce que là, il y a des suppressions qui sont quand même spectaculaires. On pourrait supprimer jusqu'à 50 000 emplois, puis même on pourrait même aller en Europe jusqu'à 100 000 total. C'est vraiment spectaculaire ce qui se passe pour Volkswagen. Puis même qu'on envisage de couper la moitié de sa gamme de véhicules à l'échelle mondiale. Ça va pas bien, là. Comment ça on coupe aussi massivement?
Ben c'est parce que c'est un constructeur qui est mal pris. Tu sais, je vous disais il y a quelques instants que les constructeurs nord-américains, ben tu sais, il va falloir qu'ils s'ajustent. Ben ça, c'est un très bon exemple. Si on rentre là-dedans, les constructeurs européens, même les constructeurs japonais, qui sont encore dans une vieille méthode de pensée avec pas des conglomérats, mais tu sais, des entreprises extrêmement lourdes, très peu agiles, très difficiles à faire virer de bord, ce qui est tout le contraire d'un constructeur comme Tesla ou des constructeurs chinois qui sont capables de se revirer sur un 10 cents, ben c'est sûr qu'il y a une lourdeur à un moment donné que les constructeurs établis vont devoir essayer de se départir, puis c'est ce que Volkswagen essaie de faire. Pris dans des vieux carcans, pris dans des vieilles méthodes de fonctionnement, des vieilles méthodes administratives qui ajoutent une lourdeur qui ne sert pas du tout l'entreprise. Puis, à un moment donné, si un constructeur automobile veut être concurrentiel, ben il faut offrir des véhicules qui plaisent au monde, il faut avoir une capacité de se revirer de bord. Tu sais, je vous disais tantôt, j'étais au Japon avec Nissan, là. On a parlé avec le président mondial de Nissan qui nous disait ce qu'il faut faire, là. Tu sais, Nissan, c'est un constructeur établi depuis déjà longtemps, là. On en a chez nous depuis plus de 60 ans, là, quand même, quand on pense à Datsun, à l'époque, tout ça, là, tu sais. Il nous disait, tu sais, on peut plus faire les chars comme on les fait actuellement. C'est impossible. On court à notre perte si on continue à faire ça comme ça. Il faut qu'on améliore notre rapidité, améliorer de 40-50% notre rapidité et diminuer de 30-40% nos coûts de développement. Imaginez ce que ça demande à un constructeur de faire ça. C'est énorme. Puis ça passe par l'amélioration de l'ingénierie, peut-être, mais par la suppression d'emplois, puis aussi par des partenariats qui vont être faits. Nissan, c'est un bon exemple. Un partenariat avec le constructeur chinois dont on parlait tantôt, Dongfeng, qui a présenté des voitures à Montréal, pour développer des modèles qui risquent d'être vendus à l'échelle mondiale, tu sais. Puis Nissan, ce qu'il nous disait, c'est que les gens n'ont pas besoin d'acheter des voitures chinoises. Les gens ont besoin d'acheter des voitures qui sont faites comme les Chinois les font. Fait que si les constructeurs veulent continuer à vivre, bien, ils n'auront pas le choix de s'ajuster à la méthode chinoise, entre guillemets.
Ah, vraiment, ça va extrêmement vite pour eux autres. Ouais. On est avec Sam Lessard de RPM. On va faire une petite pause, Sam, si tu me le permets. Puis au retour, on va prendre les questions des auditeurs. Donc, si vous en avez, c'est le temps. 88-670-9098. On va prendre le temps de déballer ça au retour de la pause. On revient, bougez pas.
Hey. Radio X.
En direct
de la taverne sur Grande Allée. Le retour de Radio X.
En vacances.
Radio X.
Hey, je me demandais, c'est...
Vous écoutez le retour de Radio X en vacances à 16h54 minutes. C'est Jordan. Et vous avez entendu Mel Trudel, qui est avec nous autres aussi. Pour ça, de garder les écouteurs, c'est le best. Et Louis Gauvin également, qui est avec nous autres. 88-670-9098. Si vous avez des questions pour Sam Lessard de RPM, c'est le temps. C'est là qu'on va commencer à poser les questions. Fait qu'on y va, écoute, je vais commencer avec la première. Salut Sam, j'ai un Chevrolet Duramax 2021, un moteur 3 litres, j'ai 175 000 km et je n'ai absolument aucun problème et il y a l'intention de le garder à très long terme. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y aura peut-être des problèmes éventuels à surveiller?
Le gros défaut, souvent, des mécaniques diesel, c'est tout ce qu'il y a après le système d'infodivertissement, antipollution. Antipollution, on va finir par l'avoir. C'est le filtre à particules, le système d'injection durée. Normalement, s'il n'y a pas encore eu des problèmes, ça risque d'arriver là, parce que c'est souvent le pépin qu'on voit. Moi, je pense que ça vaut la peine quand même de le conserver parce que de réparer ça, peut-être ça va coûter quelques milliers de dollars, mais ça va quand même coûter moins cher que de changer de pick-up complètement. Fait que, à mon avis, ça vaut la peine de conserver ça. Ouais.
Sur le texto, on demande aussi, quel mode hybride serait un bon remplaçant pour le Rogue? Ou est-ce que c'est mieux de rester dans le Nissan? J'ai déjà eu un Rogue que j'ai adoré, d'ailleurs. Ça consomme pas tant, je trouve, pour la grosseur que ça a, puis le côté pratique. Est-ce que tu as quelque chose à suggérer en mode hybride?
Oui, c'est sûr que le Rogue qu'on a actuellement, c'est un moteur pas trop intéressant. Moteur 3 cylindres turbo, on évite ça. Mais si on veut acheter un véhicule hybride actuellement, il y a deux modèles qui sont les meilleurs, le Honda CR-V hybride et le Toyota RAV4 hybride. Peut-être un peu plus cher dans les deux cas, autant le prix du véhicule que le taux d'intérêt, mais quand tu le finances ou même quand tu veux le louer. Mais c'est des véhicules très économiques de carburant, très fiables puis qui gardent une excellente valeur de revente. Quand on s'en tient à ces modèles-là, on se trompe pas. Je parlais un peu plus tôt du nouveau Rogue hybride qui s'en vient. Pour le moment, c'est pas encore arrivé. Il va falloir attendre à partir du mois de décembre, janvier prochain. On l'a pas essayé à long terme, mais ça va certainement être un véhicule à surveiller. Fait que si vous n'êtes pas pressé, ça peut être une autre option aussi à considérer.
Il y a quelqu'un qui posait une bonne question sur votre foire à questions sur le site des RPM. Lui, il veut une voiture d'occasion. Lui, il parlait des environs de 2021, fiable à long terme, économe d'essence. Puis il hésite entre un classique, là, c'est-à-dire un Honda Civic puis une Toyota Corolla. Selon toi, Sam, c'est quoi qui est le plus fiable sur le très long terme? T'sais, lui, j'imagine qu'il veut monter ça à 300-400 000 km. Ouais. Les problèmes de peinture aussi, il y a le moteur turbo des Honda qui préoccupait ce gars-là. C'est quoi que tu lui conseilles?
Toyota Corolla. C'est pas compliqué, là. Une Honda Civic, ça se défend assez bien quand même, mais on a vu l'ancienne génération avec des problèmes de compresseur d'acclimatisé que le constructeur n'est pas capable de régler. Des problèmes d'infodivertissement aussi à l'intérieur. L'écran qui gèle, qui bug, la radio joue pas. La peinture aussi, ça a été un problème avec les années. On se rappelle, tu sais, des Honda Civic il y a plusieurs années avec des problèmes de peinture assez sérieux. Le clear en bas, la couche de vernis décolle carrément. On voit pas ces genres d'affaires-là avec une Corolla, qui est peut-être un petit peu moins le fun à conduire, mais quand on regarde la fiabilité, la durabilité, le faible coût à long terme, il n'y a rien qui arrive avec ça.
Vraiment, c'est sûr, la grosse coche. Il y en a un qui veut du use, il est plus dans le luxueux un peu, Lexus NX 300. Il fait beaucoup de routes. Est-ce que sur le long terme, justement, il peut avoir quelques pépins ou le NX 300, c'est un bon véhicule pour faire du millage?
Très bon choix. Moteur turbo qu'on a là-dedans, de 2 litres turbo, ça a été un moteur vraiment pas problématique. L'affaire que je pourrais dire, par contre, c'est que si on veut avoir peut-être une économie de carburant meilleure puis même une meilleure fiabilité à long terme, un NX 300H hybride, ça vaut la peine parce qu'il va être peut-être un peu plus cher, mais va consommer moins puis va être plus fiable à long terme. Fait que tu sais, on garde le même véhicule, sauf on prend une mécanique hybride qui nous fait sauver du carburant sans imposer de compromis. Fait que moi, c'est là que j'irais.
OK. Question pour Sam. C'est Bruno qui nous écrit. Lui hésite entre un Audi A5 Sportback et un Kia Stinger GT pour le coffre, la profondeur. Qu'est-ce qui est le plus fiable et le moins coûteux dans l'usager? Il dit, lui, vers les années 2021. Fait qu'un véhicule qui a à peu près 5 ans, là.
Oui, c'est ça. Moi, je prendrais un Kia Stinger GT entre les deux. C'est peut-être surprenant un peu parce que, tu sais, on dit, ben, une Audi, ouais, c'est vrai que c'est une bonne machine. Oui, c'est vrai que c'est le fun. Mais, tu sais, une Kia Stinger, c'est un peu plus gros. Si on veut un peu plus de volume de coffre, de valise à l'arrière, c'est mieux. Stinger GT, c'est un V6 3.3 biturbo, alors que l'autre, c'est un 4 cylindres 2 litres. Fait que la performance, c'est quand même pas mal plus intéressant. Puis la fiabilité d'un Stinger, c'est vraiment très, très bon. Il va sans doute être moins cher aussi un peu que le Audi A5. Fait que, okay. À mon avis, on est gagnant sur toute la ligne en prenant ce véhicule-là par rapport à une Audi A5. Ça aurait été peut-être un peu différent si on avait parlé d'une Audi S5 qui, elle, a un V6 plus performant, plus sportif, mais comparé à une A5, c'est Stinger all the way.
OK. On a un auditeur qui fait de la ville. C'est Richard qui nous écrit. Puis lui, il aimerait ça y aller pour le 100% électrique. Il dit que ce serait pas un problème pour lui. Il veut t'entendre sur le Tesla Model Y, mais il y a de l'ouverture aussi pour le Tesla Model 3. Il veut tes impressions sur ces modèles-là.
Modèle Y ou même Modèle 3, c'est des modèles qui sont matures parce que depuis 2018, on connaît la Modèle 3 au Canada. Depuis 2020, le Modèle Y aussi chez nous. Quand même des modèles qui ont évolué, oui, avec le temps, mais qui ont gardé grosso modo la même structure, tout ça. Fait que le constructeur n'a pas fait de révolution, c'est une évolution. Ça demeure vraiment de très bons produits. Moi, entre les deux, je prendrais un Modèle Y pour deux raisons. Premièrement, c'est un véhicule qui est mieux protégé dans le bas de la carrosserie. Il y a des tours d'ailes en plastique, bas de caisse en plastique aussi, ce qui n'est pas le cas de la Model 3. Puis on sait que la Model 3 a eu beaucoup de problèmes de peinture.
Ça peut rouiller vite, Sam.
Oui, c'est ça, exactement. On risque de moins rencontrer ça avec un Model Y, de un. Et le deuxième truc, c'est l'espace à l'intérieur. C'est beaucoup plus spacieux un Model Y qu'un Model 3. Si on veut transporter des trucs ou on a une famille, c'est vraiment, vraiment un avantage. On garde une chose en tête, si on veut garder ça à long terme, un traitement anti-rouille, c'est nécessaire compte tenu de l'historique qu'on a avec ces modèles-là. Mais une fois que ça, c'est fait, c'est vraiment un très, très bon produit.
Puis, ajoute un extra sauce côté pièce. Est-ce que ça peut être une problématique chez Tesla ou aussitôt qu'il arrive de quoi, là, ça peut aller assez vite?
Ouais, c'est pas problématique pour la disponibilité des pièces. Là où ça peut être un peu tannant, c'est que souvent le constructeur est assez pointilleux. Si on veut commander une pièce, ça prend le numéro de série, ça prend... Tu sais, il y a une espèce de processus. Mais généralement, comme c'est un modèle assez fiable, les pièces qu'on va remplacer le plus souvent, on va parler peut-être des bras de suspension à l'avant. C'est un problème connu des modèles Y, mais là, on parle de, mettons, 80, 100, 110 000, 120 000 km. Ça va arriver peut-être une fois, mais... Puis peut-être un problème de thermopompe à plus haut kilométrage, mais rien de plus que ça. Vraiment, c'est des modèles globalement assez fiables qui se débrouillent bien quand on les compare aux autres véhicules électriques là, en matière de fiabilité.
On a quelqu'un ici qui a une Corolla 2021 à 150 000 km et il fait une job de représentant sur la route. Il fait au moins 30 000 km par année. Il se demande s'il devrait changer pour un véhicule électrique.
Oui, ça peut très, très bien marcher, un véhicule électrique, si on est prêt, justement, à avoir... c'est sûr que ça dépend qu'est-ce qu'on fait comme déplacement, mais si on revient toujours à la maison à chaque jour, c'est idéal parce qu'on se branche en revenant à la maison, puis le lendemain, ben on part, notre véhicule est plein, on fait notre circuit, puis bon, on a tout le temps de l'énergie. Oui, ça peut être une très, très bonne idée. Moi, ce que j'aurais envie de conseiller, c'est peut-être justement un Tesla parce que c'est très, très facile de circuler sur la route avec un véhicule Tesla à cause du réseau de recharge qui est bien imbriqué. On dit où on s'en va, le véhicule calcule les arrêts nécessaires, va dire tu vas arrêter de te recharger là. Ah non, finalement, il y a trop de monde à ce chargeur-là, va-t'en plutôt à telle autre place. Tout ça se fait en temps réel. Fait que ça, c'est quand même un avantage pour les gens qui voyagent ou qui se déplacent beaucoup avec un véhicule électrique. Fait que modèle 3, modèle Y, avec ces deux véhicules-là, on se trompe pas bien. C'est les mêmes conseils que je disais tantôt. Si on veut garder ça plus longtemps, un traitement anti-rouille, même une pellicule de protection sur des éléments clés, ça vaut la peine.
Super.
Après ça, ben écoute, il y a Steven qui nous écrit, puis lui, c'est le pick-up de rêve, honnêtement. Moi, ça l'est, là, le Ford Raptor, il veut t'entendre là-dessus. Le RV8, 5.2 litres, qu'est-ce que tu penses de ça, Sam?
Mais la grosse affaire, là, sérieux, c'est la grosse machine qui est capable de tout affronter. Moi, je me dis, si on est capable de se payer ça, puis on veut s'amuser, go. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui arrive avec ça. Il faut, j'imagine que Steve le sait, mais ça consomme du gaz, ça n'a pas d'allure. Il faut être prêt à payer le bill, mais si on est prêt à ça, ben go, amusez-vous. La seule affaire, je peux répondre à ça.
Ouais, c'est ça, all-in. Puis tant qu'il y a un pick-up, on va y aller. Il y a un nouvel auditeur qui nous écrit que lui, il hésite entre F-250 avec 7.3 gaz et 6.7 diesel, environ 30 000 km par année.
Ouais, ça dépend bien bien ce qu'on fait, parce que 30 000 km par année, c'est pas assez, je pense, pour passer à un moteur diesel si on s'en sert rien que pour se déplacer, mettons, comme véhicule de tous les jours. Le diesel va être le fun si on fait encore plus de kilométrage que ça. Et si on remorque ou on travaille souvent avec le véhicule, ça, il peut avoir une pertinence. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le moteur diesel coûte 13, 14, 15 000 $ de plus que le moteur à gaz. Fait que, tu sais, je comprends que la valeur de revente est meilleure au bout, là, mais c'est ça. Il faut quand même y voir un avantage à tous les jours. Puis cet avantage-là, il vient quand on travaille beaucoup avec le véhicule, quand on fait beaucoup de kilométrage. Si ça répond à ça, oui, diesel, sinon le gaz fait amplement le travail. Il va coûter moins cher d'entretien en plus que le moteur diesel. Moins à risque de bris, plus fiable.
OK, parfait. Il y a des gens qui nous écrivent concernant la Nissan Leaf. Puis je veux t'entendre parce que j'ai vu un sujet passer justement là-dessus sur le site d'RPM parce qu'on l'a comme métamorphosé en VUS pour 2026. Puis les chiffres sont quand même positifs pour la marque. Tu sais, c'est plus mature, plus abouti. Ça a un bon succès. Mais il y a quand même quelques composantes avec des débuts un peu laborieux pour la Leaf mode VUS, mettons.
C'est pas forcément relié au fait qu'on est passé en mode VUS. T'sais, le constructeur, je pense que voulu adopter un peu ce marketing-là parce que ça pogne un peu plus qu'une simple voiture. Puis, t'sais, la Leaf vit quand même avec son historique de petite voiture électrique de laquelle les gens rient un peu parce que ça n'a pas beaucoup d'autonomie. Mais là, la nouvelle génération, c'est pas mal plus sérieux. Meilleure autonomie. On a des versions à quasiment 500 km d'autonomie. Le style est pas mal plus intéressant aussi. Fait que non, quand même vraiment un bon coup de Nissan. Ce qui est peut-être un petit peu plus plate, c'est qu'on semble l'avoir lancé un peu rapidement. Il y a eu ce printemps un problème avec la batterie haute tension qui a forcé pour l'espace d'une journée l'arrêt des ventes du véhicule. Il y a 65 véhicules qui ont été rappelés au Canada pour risque d'incendie. Puis là, il y aurait encore un arrêt de vente là, pour quelques jours, voire quelques semaines, là, pour un rappel pour les ceintures arrière là, du véhicule qui serait pas sécuritaire. Fait que, tu sais, on dit souvent, nous, à l'émission, là, quand il y a un nouveau modèle qui arrive sur le marché, soyez donc patients un peu, tu sais, que le constructeur règle ses problèmes de début de production. Puis là, on a un bon exemple. Tu sais, c'est quand même des trucs assez sérieux, là, qui touchent la sécurité. C'est sûr qu'en début de production, les véhicules sont sujets à avoir ce genre de pépins-là. Quand on attend un an de commercialisation, bien, souvent, c'est vite bien des problèmes. Fait que, moi, le livre qu'on devrait dire maintenant, pas mal plus intéressant qu'avant, mais laissons-le arriver, laissons-le vieillir, puis ça va faire simplement un meilleur véhicule dans un an.
J'ai une question un peu personnelle, c'est que moi, j'ai appris par pur hasard qu'il y avait une garantie de protection là, sur, pour la corrosion là, sur mon véhicule, mais est-ce qu'il existe un site où on peut voir l'ensemble des rappels sur des véhicules? Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a des trucs qui sont encore garantis même après 10 ans sur des véhicules alors qu'on ne le sait pas. Donc, est-ce que c'est d'appeler dans le concessionnaire pour te faire un petit check-up là-dessus ou il y a un site qui existe?
Très bonne question. Très, très bonne question. Il y a deux choses là-dedans. La garantie qui est fournie par le constructeur automobile, ça varie d'une année à l'autre, dans le sens où, mettons, chez Volkswagen, en 2010, il y avait une garantie sur la perforation de 12 ans kilométrage illimité. Puis à partir, je pense, de 2017 ou 2018, ils ont changé ça. C'était rendu 7 ans, 200 000 kilomètres. Fait que bref, ce qu'il faut faire quand on a un véhicule puis on veut savoir c'est quoi la couverture de garantie que le constructeur nous donne, c'est qu'on va sur le site, mettons Honda Canada, Volkswagen Canada, Ford, etc., peu importe, puis on va dans la section garantie. Tous les sites ont la section garantie. On va là-dessus, on rentre notre modèle, puis là, on va être capable d'avoir le livret de garantie qui est propre à notre véhicule, puis on va savoir qu'est-ce qui est couvert, pour combien de temps, puis pour combien de kilométrage. L'autre chose là-dedans, on parle de rappel. Un rappel, ça, c'est mandaté, c'est obligatoire par le gouvernement, Transport Canada, qui va dire il y a un défaut de sécurité sur un véhicule, mettons, on en parlait avec la Leaf, la ceinture de sécurité en arrière, elle ne marche pas.
Ou un risque de collision.
Ouais,
ah,
oui, c'est majeur, coussin gonflable, ça touche la sécurité. Ça, oui, c'est sans frais, tant et aussi longtemps que le véhicule est en circulation. Fait que même si le véhicule a 25 ans, s'il y a un problème avec le coussin gonflable, le constructeur est obligé de vous envoyer une lettre puis de vous dire, votre véhicule, il y a un rappel, on va le réparer sans frais. Si vous voulez savoir si votre véhicule est touché par un rappel, vous allez sur le site de Transport Canada. Là, tu rentres la marque, le modèle, l'année de ton véhicule, puis tu es capable à ce moment-là de savoir s'il y a un rappel qui touche ton modèle spécifique.
Ça vaut la peine de le faire parce que parfois, on déménage et on ne pense pas nécessairement d'aviser le concessionnaire qu'on
absolument, qu'on habite maintenant une nouvelle
adresse.
C'est vraiment un bon point.
Hey Sam, merci de ton temps, c'est super apprécié. Puis il y a plein d'auditeurs qui sont bien contents d'avoir eu tes lumières sur leur sujet de voiture. On va s'en reparler assurément la semaine prochaine. Puis si on veut
absolument
plus de Sam Lessard, ben c'est possible avec RPM sur le web, même podcast et évidemment à la télé.
On est tout le temps là.
Merci Sam.
C'est bon, on se reparle bien.
Merci.
Salut, bye bye. Bye. C'était Sam Lessard de RPM. Vous écoutez le retour de Radio X en direct de la taverne sur Grande Allée. Et il y a du monde ce soir pour Shaggy, pour Kesha. C'est le fun, l'ambiance est tripante. Venez nous voir sur Grande Allée en direct de la taverne. On fait une pause, on revient, bougez pas.
En direct de la taverne sur Grande Allée. Le retour de Radio X.
On revient dans pas long.
Radio X.